bienvenue dans L'Ombre d'un doute, le podcast de Criticat. Aujourd'hui, on est en compagnie de Josué Morel. Bonjour Josué.
Bonjour Clément.
Et on va parler de deux films, The Drama de Christopher Borgli et Juste une illusion d'Éric Toledano et Olivier Nakache. On commence donc par le premier des deux films, The Drama, qui raconte les quelques jours qui précèdent le mariage de Charlie et Emma, qui sont joués respectivement par Robert Pattinson et Zendaya. Tout se profile bien jusqu'au jour où, pendant un dîner entre amis, Emma va avouer quelque chose qu'elle a fait, ou qu'elle a plutôt presque fait, qui va un peu remettre en cause, en tout cas chambouler Charlie en plein préparatif de mariage. C'est toi, Josué, qui a suggéré qu'on revienne sur ce film quelques semaines après sa sortie. Qu'est-ce qui t'intéressait dans le cas The Drama ?
Ouais, c'est une question intéressante parce que, déjà, on n'avait pas fait d'épisode le mois dernier. Alors, d'une part, parce qu'on prépare des choses à Criticat et que ça prend du temps et que donc on a sauté un épisode de podcast, mais aussi parce qu'il est vrai que certains films qui sont sortis nous ont paru peut-être un peu moins intéressants dans le cadre d'un débat. Je pense notamment au film de Gus Van Sant. Et donc on préfère revenir sur un objet qui est évidemment un peu plus impur et pas forcément d'ailleurs un film qu'on aime beaucoup, je pense, enfin, on va en discuter, mais en tout cas qui présente un intérêt. Et surtout, moi je suis un peu surpris dans la réception du film, c'est qu'à la fois j'ai senti une espèce de réflexe un peu moral, et notamment avec une comparaison récurrente qui n'est pas d'ailleurs totalement injustifiée, mais qui me semble un petit peu qui ne permet pas forcément de saisir ce qui se passe précisément dans ce film-là, qui est la comparaison avec Robin Östlund. Et c'est vrai que dans la déliquescence du couple, on peut penser au début de Sans Filtre, qui est d'ailleurs un peu la meilleure partie de Sans Filtre. Et non, surtout, moi, ce qui m'a rendu un peu perplexe, donc c'est aussi pour ça qu'on se fait ce débat, c'est que moi, je trouve que c'est pas un film qui est très subtil et qui se pense beaucoup plus subtil qu'il ne l'est. Et en même temps, il y a quand même des choses, j'ai l'impression, qui n'ont pas forcément été dites sur le film. Qui me paraissent pourtant importantes à signaler pour en tout cas comprendre où il veut en venir. Alors déjà, par exemple, on s'est posé une première bouche de débat critique avant même de faire l'émission, de savoir est-ce qu'on en parle ou pas. Est-ce qu'on dit pourquoi, quel est le motif, le nœud scénaristique qui fait que ce couple va se déliter vitesse grand V juste avant les noces. Moi, j'aurais tendance à dire, je ne suis pas du tout un apôtre comme ça, du spoiler, anti-spoiler, ou que sais-je. Du spoiler comme de l'anti-spoiler, je veux dire les deux, voilà. En revanche, j'ai l'impression qu'on peut quelque part parler complètement du film sans évoquer ce point, puisque précisément le film repose sur un double jeu de passe-passe, donc on va commencer par là. Alors déjà, ça pourrait paraître anecdotique, mais le sentiment de décalage entre la façon dont il a été vendu, alors moi vraiment je pense pas que forcément le marketing marketing fasse partie du film, mais je remarque quand même quelque chose qui est assez quand même révélateur de ce que fait le film, c'est que dans le film, on ne voit pas le mariage, on voit la réception du mariage. Donc on voit l'après-mariage, l'après-engagement, puisque précisément ce que nous raconte le film, c'est qu'on ne se marie pas pour soi, on ne se marie pas même pas pour l'autre, on se marie pour les autres, et la manière dont on est perçu comme entité sociale du couple, je remarque qu'il y a quand même un décalage, c'est-à-dire que le mariage, on le voit à un endroit quand même qui fait quelque part partie du film, de notre image mentale, comme Les Dents de la Mer, d'emblée, il y a une image quand on entre de la salle qui est d'un requin qui surgit et qui est sur le point d'avaler une femme, et pourtant le requin, on ne le voit pas pendant quasiment une heure. Bon, sur l'affiche de ce drama, on voit quoi ? On voit le mariage qu'on ne verra pas dans le film. Donc il y a déjà un espèce de glissement entre l'image du film et ce qu'il est, donc ce n'est pas une comédie romantique, mais c'est une espèce de jeu de massacre. Voilà, je pense qu'on peut... Et je pense que c'est vraiment la limite intrinsèque du film, c'est-à-dire qu'il développe tout un discours, notamment sur le couple, le mariage et sur la société au sens large, pour au final quand même filmer un jeu de massacre un peu convenu entre bourgeois de l'aristocratie, enfin de l'aristocratie non, de la bourgeoisie culturelle de Boston, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est un premier point, c'est donc qu'il y a comme ça un espèce de glissement, et de la même manière qu'on pourrait croire que c'est un film de scénario qui repose sur un espèce d'enjeu moral à la moelleux du type est-ce que tu préfères avoir une jambe en mousse ou Patrick Sébastien remplacer ta jambe droite. Je pense que c'est pas l'enjeu, et je pense d'ailleurs que moi je suis un peu surpris des débats qu'il y a, de savoir est-ce que confie Zendaya est la chose la plus grave ou que sais-je, est-ce que avoir l'intention de, enfin on est sur des débats philosophiques qui sont pas forcément très intéressants. Là où ça m'intrigue un peu plus, c'est qu'en fait le film glisse très très vite, mais on pourrait même dire qu'en fait que c'est là d'emblée, c'est-à-dire que on ne voit pas un couple. Au début, on voit le récit d'un couple. Mmh. Et on voit le récit d'un couple qui est rétrospectif, donc qui est quelque chose de l'ordre de la projection, mais aussi comme ça, de la réinvention a posteriori. Et que très vite, ce que, d'ailleurs, je dis que c'est un film sur le couple, mais même ça, c'est discutable, puisqu'il n'y a pas d'égalité de point de vue.
Et non, on est du côté de Charlie Robert
Pattinson. Il y a une scène où on va avoir accès au régime perceptif, à la perception comme ça, un petit peu inquiète de Zendaya, qui s'imagine son compagnon dans un parc en train de discuter avec un de ses amis. Et en fait, elle, pour dire les choses un peu trivialement, elle psychote, voilà, sur ce qui pourrait arriver. Mais le reste du temps, on va plutôt être dans la tête du personnage, donc, de Pattinson, qui, en gros, va être parasité par des images mentales et surtout parasité par la manière dont les gens... Puisqu'on devine, au fait, au fur et à mesure, que lui, quelque part, il pourrait tout à fait bien vivre avec cet aveu. Et d'ailleurs, il le prend pas si mal au tout début, et que c'est à partir du moment où les gens réagissent mal... et notamment sa collègue de travail dans une scène où vraiment il commence à s'emporter, il commence à lâcher un petit peu comme ça le volant, que quelque part, il y a un espèce de, dérèglement, de délitement. Là où ça m'a... Il y a deux, trois endroits, je dois dire, où je pense que le film est un peu plus curieux. Je pense à une scène, par exemple, qui a été beaucoup commentée, qui est la scène du shooting de photos, où en effet, il y a quelque chose qui est un peu appuyé, qui est que, en gros, le couple est mitraillé, littéralement, et puis en plus, il y a un vocabulaire du shooting, exactement, qui renvoie donc au fameux trauma au fameux dont drama. On n'a pas parlé pour le moment. Et bon, cette scène-là est appuyée, c'est une scène de sexe, mais il y a un détail qui se glisse dans le montage, qui est vraiment hyper curieux et qui est un peu d'une perversité folle, c'est que le personnage de Pattinson n'arrive pas à sourire. Et le couple, globalement, n'est pas en train de performer au sens vraiment théâtral comme il le devrait. Et là, tout d'un coup, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a vraiment un truc très bizarre, c'est que l'attention de Pattinson se porte sur une femme blonde qui est derrière un ordinateur, derrière un bureau. Il la regarde un peu et en fait, on devine l'ébauche d'un sourire un peu séduit de chez elle, ou en tout cas, et en fait, il se rend compte que il l'a encore, quoi. Il a encore cette espèce de pouvoir d'attraction. Il a une image positive qui est lui renvoyée par le regard de l'autre. Et là, tout d'un coup, il va utiliser, il va s'appuyer, il va servir de levier de ce regard comme ça à la dérobée pour booster son ego et délivrer une performance. Là, cet endroit, tu vois, sur un peu la perversité ou sur le côté, en fin de compte, comment se construit le désir, comment se construit aussi l'image sociale qu'on a, etc. Il y a deux, trois endroits où le film n'est pas tout à fait inintéressant. Et puis, voilà, le point sur lequel je voulais revenir, parce que je suis un peu étonné là-dessus, parce que ça me semble déplier un peu tout ce que raconte le film, c'est-à-dire, en gros, bah, un couple, c'est toujours une construction, et le mariage encore plus, le mariage, c'est littéralement un contrat social, quoi. C'est le fait que, disons qu'il y a un peu un débat sur est-ce que le film a un happy end, est-ce que le film ne contrevient pas un peu à sa morale avec ce happy end, est-ce que ce happy end est un peu ambigu, sans que ce happy end va lui-même rejouer l'idée d'un rejeu, d'un redémarrage. Moi, je dois dire, je suis quand même un peu surpris, parce qu'il me semble que la scène... le montage raconte distinctement que la scène est mentale. Et voilà, je précise très rapidement sur comment la scène est construite, mais en plus, il y a un truc sur le son, puisque le personnage Zendaya est à moitié sourde.
Ouais, sourde d'une oreille. Ouais.
Elle est sourde d'une oreille, voilà. Et en fait, il y a une scène où Pattinson est donc complètement défait, ensanglanté. Il se retrouve dans le diner où ils avaient à un moment vaguement envisagé de passer l'after de leur mariage. Et il est assis sur le diner, il a une vue sur la rue. Et devant lui passe un bus, et dans le sens inverse, il y a une femme en doudoune orange qui passe, qui est exactement la même doudoune orange avec laquelle Zendaya s'est enfuie, mais c'est une femme qui n'est pas Zendaya, qui n'est pas vêtue d'une robe blanche, et qui passe sans jeter un œil. Et là, il y a un raccord sur lui, et on voit que ses yeux bougent, comme suscivait quelque chose, et en plus, il y a le son du bus qui est interrompu au milieu du plan quand la femme orange passe, donc on passe dans un autre état qui est son état mental, et là, raccord sur la porte, et il y a Zendaya qui entre de manière très étrange, parce que c'est comme si la scène était prise à la moitié. C'est en plus une scène qui a quelque chose d'un petit peu totalement impossible, mirifique. On voit bien qu'en fait elle va pas revenir, en plus ils sont pas donné rendez-vous, etc. Et qu'en gros, ce que raconte aussi potentiellement la scène à cet endroit, c'est de se dire bah voilà, en fait on est encore au point de départ, c'est-à-dire un personnage qui regarde une femme ou qui en tout cas projette un ensemble de désirs, et qu'en fin de compte on n'aura jamais vraiment vu un couple, on aura vu comme ça une série de projections multiples. Ce qui fait que quand je suis sorti de du film, et notamment de cette fin, j'ai trouvé ce geste de montage assez appuyé en fin de compte, et se voulant beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est, mais comme j'ai l'impression que pas beaucoup de gens l'ont vu, ou du moins que c'est plus ambigu que ça, je me dis bon, est-ce que le film est aussi peu subtil que je le pensais? Peut-être finalement que non, voilà, et ça me permet de te faire un raccord, voilà, pour savoir ce que toi t'en as pensé.
Bah, ce qu'il faut dire, peut-être pour défendre les gens qui n'ont pas forcément perçu la fin comme totalement fantasmatique, c'est que le film s'amuse tout du long.
Oui, et puis on n'est pas,
brasser,
là, on est pas
fait...
là pour faire les redresseurs de tort.
Non, non, bien sûr, et puis à la limite, toutes les interprétations peuvent être peuvent éclairer le film, mais tout le film s'amuse comme ça à brasser ce qui est de l'ordre du présent, du souvenir et de la projection, du fantasme, etc. Dans une espèce de régime comme ça de montage, de mise en scène, un peu en forme de ruban d'image où on est dans la tête de Pattinson, en tout cas très majoritairement, et on voit un peu tout ce qui défile. Ce qui est...
Il y a deux, trois exceptions, notamment, il faut presque les compter sur le doigt d'une main, les scènes où Zendaya est seule. Il y a la scène aussi où elle parle avec sa patronne et elle fait un petit peu un coup fourré, etc. Mais c'est vrai qu'on est essentiellement quand même, pas forcément dans sa tête, mais disons de son côté.
C'est ça. Ce qui d'ailleurs peut être aussi une des... source de mécontentement vis-à-vis du film, c'est-à-dire que c'est quand même centré sur le trauma d'un personnage féminin qui a failli faire quelque chose de très très grave, etc., et qui est surtout utilisé comme moyen, de, comme, point de, comment dire, comme point de rupture pour déclencher la psychose du personnage masculin. Enfin, bref, à la limite, voilà, c'est plus ou moins secondaire.
Oui, puis
mais...
c'est intéressant, j'ai pas pensé, mais c'est vrai que Borgli, donc le réalisateur de ce film, j'ai oublié son prénom,
Christopher,
n'est pas un cinéaste américain, et donc il fait un film qui se passe en Amérique et que quelque part il prend un personnage qui lui-même n'est pas américain,
qui est britannique,
puisque Pattinson joue un personnage britannique qui est bien implanté aux États-Unis mais qui n'est pas natif, et donc il y a un peu cet horizon-là, c'est-à-dire qu'on va partir d'un point de vue entre guillemets étranger pour avoir un regard sur quelque part les mots de la société pour dire les choses de manière très générale.
C'est ça, et donc on a en fait comme ça pendant tout le film ce côté un peu ruban d'image qui est toujours à moitié une bonne idée. Là je repense un peu à ce que tu disais de Chronology of Water, dont on avait parlé dans le podcast, c'est-à-dire
qui est très différent dans le montage mais qui a cette idée de se brancher sur une
sur
psyché,
voilà, un peu le flux de conscience on va dire pour schématiser. C'est que donc d'une part ça amoindrit un petit peu la mise en scène puisque ça la contraint à une forme de littéralité, c'est-à-dire comment on va nous faire comprendre ce à quoi pense le personnage. On fait le plan en fait tout simplement. Mais en même temps je trouve, et aussi un outil que le film parvient à utiliser de manière parfois je dirais même plus efficace au sens dramaturgique, et je pense notamment à ce que tu as commencé à décrire, c'est-à-dire le début du film qui est une espèce de moyen de se replonger dans la vie du couple qu'on n'a pas vu, qui s'est passé avant le film, à travers le discours de marié que va faire Pattinson. Et donc en fait lui est en train d'écrire son discours, de le remodeler au fur et à mesure qu'il l'expose.
C'est
à son ami.
C'est le trame du film d'ailleurs, enfin, il amende son discours au fur et à mesure, il enlève des adjectifs, etc.
Et donc ça devient un moyen de déployer à l'écran tout un tas un peu de moments comme ça charnières de leur couple, et de prendre en charge d'emblée la part de fantasme, de transformation qui va avec cet exercice un petit peu, comme tu l'as dit, du mariage et voilà, du théâtre social en règle générale. Et je pense que c'est sur cette ligne-là que je trouve le film le plus intéressant. En même temps, c'est vraiment ce qui creuse. Mais disons, c'est que il y a cette manière de circuler un petit peu indifféremment entre le fantasme et la réalité. Ce qui nous raconte que, puisque donc tout le nœud de l'aveu de Zendaya, c'est quelque chose qu'elle a failli faire et qu'elle n'a pas fait, et d'ailleurs qu'elle a failli faire puisque elle-même a vu des images de gens en train de le faire, et donc ça
je pense que tu peux le dire, tu veux y aller, mais...
elle a failli faire un school shooting, donc prendre une arme et tirer sur des élèves de son collège ou son lycée parce qu'elle était très déprimée, etc. Donc elle a pris une arme, et finalement c'est un concours de circonstances qui a fait qu'elle n'est pas passée à l'acte. Mais elle raconte que pourquoi elle a fait ça aussi, parce que elle a vu des images de d'autres événements du même genre, et du coup elle a projeté une partie de sa détresse là-dedans. Et donc il y a cette idée, je trouve, que le film illustre assez bien, de la projection en fait comme moteur principal des actions des personnages, c'est-à-dire en fait le mariage c'est on projette un avenir à partir du présent d'un couple, et Pattinson devient tétanisé par le fait de projeter dans le présent l'acte que Zendaya a presque fait à l'époque. Et donc ce que montre aussi le montage du film, qui me semble sa part on va dire la plus intéressante, c'est la manière dont un cauchemar va parasiter un rêve un petit peu, mais en fait les deux sont de l'ordre de la projection, du fantasme, finalement toutes nos actions dans la vie, et finalement Borgli a fait un film, enfin son film précédent qui s'appelle Dream Scenario, le titre est assez éloquent, c'est finalement à quel scénario un petit peu fantasmatique on va donner crédit et lequel nous semble le plus réalisable, quoi.
Non, mais je suis d'accord. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que on pourrait même creuser accompagner le scénario, c'est-à-dire que même la finalité, le fait qu'elle ne fasse pas ce mass shooting, ensuite, ça va participer de la création de son identité, de son image, et qu'au contraire, qu'elle va cultiver presque l'image inverse, qu'elle va aussi s'appuyer d'un élément, là encore, elle va s'appuyer dessus comme un levier, pour pouvoir quelque part se construire en tant qu'individu. Et je me rends compte quand même que dans le film, les moments qui m'intéressent le plus, c'est les moments justement où on voit presque quelque part une action, soit par le montage, soit par en plan large, et qu'en fait il y a une pluralité de points de vue là-dessus. Il y a aussi une scène que je trouve pas nulle, parce que là ça passe par la chorégraphie des corps, etc. C'est la scène où Pattinson manque de tromper sa collègue, et en fait on voit bien que sa collègue est dans un truc qui est un petit peu à la fois d'accompagner ce désir, que peut-être elle a un désir qui est préalable, qu'en même temps elle est frustrée par son attitude, qu'en même temps c'est lui qui est en faute, mais il y a une forme d'ambiguïté dans la manière même dont, par exemple, elle va retrousser sa robe, etc. Enfin voilà, et là le film est sur une zone, alors c'est là où on retombe sur un peu son souci, c'est-à-dire, moi je pense pas du tout que le problème du film soit qu'il soit misanthrope, c'est qu'à l'arrivée, bon, il y a quand même une forme de rétrécissement à la fois du récit, de la mise en scène, qui va vers le mariage comme une espèce de débat, qui est d'ailleurs bon, un peu décevante comme en termes de scène, même de potentiel comique, c'est-à-dire que le film le fait, mais c'est pas véritablement à cet endroit-là qu'il est intéressant. Et puis là où je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un film sur l'image. Et puis d'ailleurs, l'affiche est une image auquel on n'aura pas accès, qui est l'image la plus fabriquée, et le film serait quelque part l'envers de cette image et tout le contre-champ, le contrepoint, etc. C'est qu'en même temps, cette stratégie de mise en scène, elle va beaucoup jouer, notamment, comme beaucoup, hein, sur des mises en scène qui vont essayer de se brancher sur une intériorité, plus sur le son, d'une certaine manière. Là, ce que j'expliquais un petit peu sur la scène du diner, le passage aussi, quelque part, de l'espace réel à l'espace mental, il passe souvent aussi par le son, hein. C'est un peu presque un cliché du cinéma, de recourir au son pour montrer la distorsion comme ça, d'un regard ou d'un point de vue. Mais voilà, disons quand même, je trouve que le film n'est pas si intéressant dans sa manière de brasser comme ça, même par exemple la scène d'ouverture. Il y a quand même une forme d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on nous raconte a posteriori une scène un petit peu mirifique d'une rencontre, et en même temps, le personnage est extrêmement inquiétant. Le personnage le plus inquiétant des deux, évidemment, c'est pas Zendaya, c'est le personnage de Pattinson, et que lui-même, on a conscience, ou est-ce qu'il est en train de fantasmer le regard des autres qui ont l'impression que lui-même est inquiétant, qui est un peu dangereux, etc. Bon, c'est là que le film approche quelque chose qui serait un petit peu de l'ordre de l'abrasif. Et en même temps, je dois dire, il y a plein de scènes où il y a plein d'idées, où je trouve que le film ne va pas au bout. Je trouve qu'il y a une scène qui est manifeste là-dessus. C'est la scène avec... Alors, en gros, il y a un personnage un peu drôle, d'ailleurs, joué par... comment elle s'appelle, celle de
Licorice
Pizza, voilà, Annaline qui en gros joue une amie du couple qui elle est horrifiée par l'aveu alcoolisé de Zendaya. Et il se trouve qu'elle a une cousine qui est handicapée. Idée grinçante, bonne idée quoi, bonne idée de scénario un peu grinçant, et que évidemment à un moment Pattinson va tomber sur elle, sauf que ça produit pas de scène, c'est-à-dire que Pattinson, espèce d'échange gêné où lui-même était un peu inquiétant, mais moi je remarque déjà qu'à l'échelle du scénario cette scène n'a aucune incidence. On pourrait se dire quand même, tu vois, qu'elle a une incidence. Et ouais. Moi, là aussi, je ne sais pas si c'est... Je me pose moi-même la question, Antoine, je me pose des questions de méthode critique là, face à un film comme celui-là. Mais à plusieurs moments, j'ai l'impression en tant que spectateur qu'il me manque des scènes. Ou du moins qu'il y a des scènes que le film, en fin de compte, esquive un peu. Alors par exemple, la finalité de cette rencontre avec la cousine handicapée. Mais je me dis aussi, je suis très étonné, tout le début du film nous montre en fait le personnage de Pattinson interagir principalement avec son meilleur ami, qui est donc le mari du personnage, voilà. Et par la suite, il n'y aura plus aucune scène entre les deux personnages masculins. Moi, je trouve ça un peu impensable qu'ils aient pas une discussion, justement, ou que lui-même essaye pas un petit peu de poser ou de prendre la température, de se demander comment ça va se passer, etc. Il y a plein de choses comme ça où j'ai l'impression quand même que le film esquive un petit peu, ou du moins ne va pas au bout quand même de ce que dessine son scénario. Et puis oui, bah voilà, pour arriver à une conclusion qui, à mon avis, ménage une espèce de fausse ambiguïté, de fausse ambivalence, qui fait que le film à l'arrivée est beaucoup moins complexe qu'il n'aurait pu l'être. Mais je trouve pas que ça soit non plus quand même quelque chose de complètement négligeable, et que de dire « Oh là là, Misanthropie, Osloon, rien à voir », c'est un peu facile quand même, quoi.
Bah là où je suis aussi d'accord avec toi, c'est que finalement le film se place dans un régime où il pourrait matérialiser un peu n'importe quelle image et la faire rentrer dans son film. Ouais. Mais en fait, il reste à quelque chose d'assez... le film a un côté entonnoir, finalement, très directif.
Oui, oui.
Qui contrevient un peu à ce côté éclatement du montage,
etc. Et je dois dire même, j'aurais tendance à penser, mais alors là, on entre sur un débat qui est compliqué, mais je pense qu'il se pose. C'est-à-dire, c'est quand même évidemment pas anodin que... Bon, c'est quand même intéressant de parler sur ce point du mass shooting, c'est qu'en effet, le personnage de Zendaya n'est absolument pas dans le sociotype, voilà, c'est-à-dire oui. De l'adolescent blanc mal dans sa peau qui décide de tuer tout le monde, c'est une jeune femme, elle est racisée. Et que cette dimension-là, par exemple, tu vois, je me suis vraiment posé la question de se dire, bon, bah, évidemment, le film essaie de faire un peu un contre-coup, contre-emploi, etc. Mais est-ce que, par exemple, dans la scène de l'aveu, qui est une scène qui est organisée selon un principe de symétrie, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a Zendaya et il y a Pattinson, mais il y a aussi un couple en face, il y a deux femmes, il y a deux hommes, et en fait, lui aussi, c'est un couple entre une femme blanche et un homme noir. Est-ce que, par exemple, ce choix-là, c'est pas une manière de neutraliser, tu vois, quand même une possibilité de ce scénario, de se dire bon bah voilà, là il y a quand même une espèce d'ambivalence, il y a un endroit où quelque part le film raconte quelque chose, et donc il y a une forme d'équilibrage dans le casting qui fait que finalement le scénario n'a pas besoin de se saisir de cette question. De la même manière, quand je dis bon là j'entre dans un truc, on peut se dire bon c'est un peu un exercice de narratologie, etc. Mais pareil, je trouve qu'il y a un truc qui colle pas sur le background familial de Zendaya, c'est-à-dire qu'en fait dans les scènes d'adolescence on la voit comme si elle était complètement laissée à l'abandon, on sait que elle est la fille d'un militaire, et puis ce militaire, cette famille, on va la voir qu'elle a l'air tout à fait normal durant le mariage, c'est-à-dire que là il manque un peu des trous, et je pense que par moment le film opère des opérations comme celles que je viens un petit peu de décrire pour éviter d'aller au bout un peu des questions. Et là, c'est là où on arrive à un film qui est un peu frustrant. C'est-à-dire qu'il caresse l'idée qu'il traite un sujet, il caresse l'idée d'eux qu'il va faire une espèce comme ça de déconstruction un petit peu de la société américaine. Et en fin de compte, ça reste quand même un peu à l'état d'ébauche. C'est à nous de projeter, c'est à nous de compléter, etc. Et le film va pas au bout, quoi.
Bah, c'est aussi là qu'il y a une part un peu d'artificialité. C'est que typiquement, la question de l'aveu de Zendaya est mis en regard avec le presque adultère de Pattinson. Un petit peu ouais. Deux actes manqués et lequel est le plus terrible, etc.
Ou alors les aveux qui sont faits par les autres convives, oui. Voilà.
Mais en fait, je trouve que, par exemple, le film n'articule pas vraiment ce que dit Zendaya de l'aveu de Pattinson, qui est que, finalement, lui a été harceleur, donc il a été, en fait, de l'autre côté de la barrière, je pense que, d'ailleurs, à pousser un enfant à déménager, etc.
Est-ce que cette scène-là n'est pas un mensonge? Parce qu'il le dit sur un ton complètement nonchalant, et on a l'impression qu'il veut quand même essayer de créer un peu une histoire, voilà. Non, peut-être le vrai miroir, ce serait justement... l'autre personnage féminin qui raconte pour le coup quelque chose d'assez grave, c'est-à-dire qu'elle a séquestré visiblement un enfant handicapé. On dit qu'il est a little slow, et voilà, on sait ce que ça veut dire. Voilà. Ensuite, bon, est-ce que le but aussi d'une parole critique sur le film, c'est d'entrer justement dans l'espèce de jeu moral
qu'essaye
d'induire le scénario, alors que je pense que quand même, bon, la mise en scène creuse autre chose. On peut au moins lui reconnaître ce mérite-là, même si, à mon avis, ça reste un peu court sur patte ou voilà, va pas au bout des idées, quoi.
Oui, c'est ça. Disons que dans la dimension un peu perverse du film, donc il y a rien de très chabrolien, quoi, pour prendre un peu un exemple. Mais disons que voilà, ça reste un petit peu du jeu social, et finalement le film se contraint aussi lui-même à.
C'est de la perversité light, quoi.
C'est ça, à viser cette espèce d'intervalle. Voilà. Alors après avoir parlé de The Drama, on va passer un peu d'une illusion à l'autre pour aller voir le nouveau film de Eric Toledano et Olivier Nakache, qui est donc Juste une illusion, qui est un film dans lequel les deux réalisateurs vont revisiter un petit peu la période de leur enfance, qui serait les années 80, à travers le portrait d'une famille, donc c'est les Dayan, avec le père Yves, qui est donc joué par Louis Garrel, qui est un cadre qui vient de perdre son emploi et qui essaie de le dissimuler un petit peu à sa famille. Sa femme Sandrine, qui elle, au contraire, est plutôt sur une trajectoire d'émancipation pour s'élever un petit peu professionnellement. Et surtout leur fils, qui est un peu de facto le personnage principal du film, Vincent, qui voit sa bar mitzvah approcher et qui vit une sorte d'amourette, en tout cas essaie de développer une amourette avec Anne-Karine, une fille de sa classe dont il est amoureux. Josué, t'as écrit sur le film en faisant un peu un film assez exemplaire, en tout cas révélateur de pas mal d'éléments qui sont dans le cinéma de Toledano Nakache récurrent. Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de prendre ce film un petit peu comme représentatif?
Alors oui, c'est intéressant, parce qu'on pourrait peut-être revenir aussi sur le lien avec The Drama, parce qu'en fait, en y songeant, peut-être que les films ont des choses en commun. Alors non, je me faisais une réflexion dernièrement, je suis désolé, ça va paraître un peu cuistre, mais je me suis rendu compte que j'aimais pas les films de Toledano et Nakache, mais que j'aimais bien les voir. Non, mais dans le sens où quand même...
Y réfléchir en plus.
Non, mais tu rigoles, mais en fait, je me rends compte que je les couvre depuis Le Sens de la Fête, et que quasiment à chaque fois, en fait, je trouve que c'est des films assez passionnants. Dans ce qu'ils mettent en place, dans ce qu'ils racontent, dans ce qu'ils dessinent. Et notamment, c'est pas nouveau ça. Faut se souvenir quand même que leur premier immense succès, enfin, qui est vraiment des plus grands succès de l'histoire du cinéma français, c'est Intouchable. Et qu'il y a toujours une question sous-jacente chez eux, pardon, qui est comment faire société. Et en même temps, quelque chose qui est de l'ordre de la conscience. C'est très bizarre, c'est qu'à la fois ils font des films où on a l'impression, on pourrait dire, ah, c'est juste des comédies. Et on va mettre le riche, le pauvre, le blanc, le noir, et voilà, et on va pas se poser de questions. Et en même temps, ils ont fait aussi des films beaucoup plus engagés, voilà. Ils ont quand même fait juste après, c'était le film avec c'est Samba, je crois, qui était pas inintéressant d'ailleurs, qui est avec Charlotte Gainsbourg. Et il y avait aussi l'idée qu'on va marier des natures d'acteurs différentes. Mm-hmm. Ça, il y a toujours eu chez eux, c'est-à-dire on va prendre pur acteur de comédie, on va le mettre face à un Vincent McKen qui sort encore du cinéma d'auteur, on va mettre Omar Sy face à Charlotte Gainsbourg. Là, on va prendre, ils disent qu'ils ont voulu juste mettre parfois Louis Garrel et Pierre Lottin dans la même pièce et de voir ce que ça produit. Donc il y a un peu cette idée-là quand même, c'est-à-dire de la comédie comme un espèce de champ d'expérimentation au niveau des acteurs. Et il faut leur reconnaître qu'ils sont passés un peu par tous les acteurs, quoi. Enfin, jusqu'à une ascendance Bakri, je pense, Bakri Jaoui, quand même, il y a une ascendance chez eux qui est assez nette, mais aussi voilà, Cohen, Marmaille, etc. Enfin voilà, il y a quand même une volonté d'embrasser différents spectres de comédie, et puis avec parfois des sujets, je le disais, bon, parce que Samba, c'était quand même les sans-papiers, les centres de détention de migrants, etc. Hors normes, c'est véritablement, c'est tout le problème du film, d'essayer de filmer des enfants handicapés, et donc de jouer aussi sur quelque chose qui est entre la comédie, mais aussi le film social, politiquement engagé, etc. Alors moi j'ai pas vu en thérapie parce que j'ai vu la version américaine et voilà, mais bon, il y a quand même une volonté de s'attaquer aux attentats. Voilà, à chaque fois, il y a quand même quelque chose chez eux qui travaille une forme d'inconscient. Et alors bon, la question de comment faire société, moi aussi je suis frappé de ça. C'est de voir qu'il y a toujours l'idée d'une cohabitation entre des gens qui s'entendent plus ou moins bien et qu'en fait, on n'est jamais sorti du schéma. Ça va paraître un peu peut-être bizarre ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'ils filment toujours un peu la société comme une colonie de vacances, quoi, c'est-à-dire depuis nos jours heureux. Et qu'il y a surtout quelque chose d'assez étonnant chez eux, c'est qu'il y a presque un signe égal entre la société et la famille.
Oui, absolument. Oui.
Voilà, et c'était ça aussi dans Le Sens de la Fête. C'est-à-dire que Le Sens de la Fête, qui était un film... Là encore, une comédie, je le dis d'emblée sur ce village, je trouve que c'est plutôt une comédie dans le haut niveau de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire voilà, en termes d'écriture, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais voilà, en termes de sens du dialogue, etc., ou de situation, comme d'une certaine manière, je pense que Le Sens de la Fête n'est pas leur pire comédie, mais en même temps, Le Sens de la Fête, je me souviens, j'avais déjà écrit un texte un peu sidéré sur le film, où je finissais en posant l'hypothèse que c'était le premier film de l'ère Macron quand il est sorti, puisque c'était un film sur l'allègement des charges, et aussi sur il faut dépasser les clivages, parce que la société, c'est ce qui fait famille. Il y avait une scène notamment hallucinante, la scène des Sri Lankais, qui est quand même
fou,
un truc extraordinaire, il faut resituer quand même, ça c'est un truc d'impensé génial, c'est-à-dire que le mariage tombait complètement à l'eau et tout d'un coup on découvrait que les Sri Lankais qui faisaient la plonge étaient en fait des musiciens émérites dans leur pays d'origine et ils transformaient le mariage de Judith Chemla et c'était Benjamin Laverne je crois, et c'était une expérience extraordinaire, sauf que le lendemain on retourne à la plonge et un des derniers logs du film c'était quand même c'est pas comme ça que tu vas t'intégrer, donc une espèce de violence sociale qui est toujours là et j'ai l'impression voilà, d'emblée c'est quand même on est face à un personnage, le personnage d'Yves, qui perd à la fois sa place de parking et aussi son poste, donc sa place dans la société, et qui se retrouve menacé par quoi ? Par le prolo qui est Pierre Lottin, qui est le concierge, avec tout voilà, l'espèce de mépris bourgeois, de petit bourgeois ou de semi-bourgeois ou de petite classe moyenne comme ça, que ça peut engendrer, et en plus par sa femme qui, elle, est dans une dynamique d'ascension sociale parce que, attention, on est en 85 et donc on est à un moment comme ça un petit peu d'empouvoirment alors même que la figure de l'homme traditionnel, père de famille, est en crise, et ça, le film le fait notamment dans une scène où il y a littéralement une chanson de Cabrel, si je ne me trompe pas, qui chante Ma place dans le trafic, et où tous les personnages masculins sont habillés en imperméable et sont interchangeables avec les Échos, etc., le Figaro, etc. Mais alors bon, là où ça pose quand même question, c'est que la question, à mon avis, de la différence chez eux est quand même très relative. Ça, ça a été dit, moi, ça ne me pose pas forcément un problème parce que je pense qu'il y a une dimension purement nostalgique et parce que le film n'est pas très conséquent politiquement, mais c'est vrai que c'est une vision de la banlieue qui est très blanche ou en tout cas qui n'est pas forcément représentative de justement, c'est ça qui est quand même un petit peu étonnant, de l'idée qu'ils se font de 85, 86, je ne sais plus, cette idée quand même que ce à quoi veulent revenir Toledano et Nakash, c'est, je m'apprête à prononcer une phrase que je pensais jamais me prononcer, c'est la France d'Harlem Désir, si jamais elle a jamais existé, c'est-à-dire la France de touche pas à mon pote.
Le film se termine par une intervention télévisée.
Exactement, et avec là où vient... Alors c'est ça aussi étonnant, on pourrait se dire, est-ce que là encore c'est pas un film qui à la fois veut travailler à la question de l'image, de l'illusion, de la nostalgie, etc., et en même temps qui n'irait pas au bout, parce que cette illusion, quelque part, est-ce que c'est juste une illusion qui est quand même un titre un peu triste, absolument, un peu fataliste, quoi, ou alors au contraire c'est juste une illusion, mais est-ce que quelque part il veut pas s'y lever, et moi je pense que justement il y a un truc chez Toledano et Nakash qui veulent se lever et ils ont toujours eu ça dans l'illusion, il y a une logique un peu performative aussi comme ça du mensonge, là qui est joué notamment sur un gars qui est assez drôle d'ailleurs, qui est celui de la fausse cassette porno qui s'appelle La Ruée vers l'or, L-A-U-R-E, et où on voit au début, dans une scène de reconstitution, les deux cinéastes en livrée qui jouent une parodie comme ça de majordome dans un lupanar bourgeois où on s'apprête comme ça à avoir des parties fines. Mais voilà, et moi je dois dire que ce qui m'a frappé dans le film, c'est à quel point, mais parce que j'ai l'impression que l'échéance se rapprochant, on y pense de plus en plus, c'est-à-dire où va la France en ce moment, quel choix elle s'apprête à faire potentiellement dans un an, etc. Et moi, j'ai été frappé, notamment l'effet un peu, je sais que ça marche très bien en salle, j'ai entendu ça sur... le film commence par une espèce de patine rétro sur des génériques, donc on retrouve, moi je l'ai beaucoup connu en VHS, hein, le générique de Gaumont qui défile comme un tapis, un peu à la Star Wars, voilà, et surtout, il me semble que c'est la première image du film, c'est le générique de Canal+. Et moi, je pense que ça raconte un truc. Voilà, c'est un peu l'objet de mon texte, mais que quelque part, on retourne à la France ne touche pas à mon pote dans un moment où on n'est plus encore touche pas à mon poste, quoi. Enfin, on est ça, encore dans une France anonymisée, même si on en parle un peu moins. Et puis surtout, voilà, c'est revenir. Je traduis ça sur l'ordre du symptôme, mais que c'est revenir à une France pré-Bolloré, quoi. Et à cet endroit, c'est quand même, j'en parle pas dans mon texte parce qu'on peut pas tout faire rentrer, mais je trouve un peu gratuit, je trouve un peu hypocrite, en fait. À un moment, il y a une phrase où le personnage de Garel dit au père d'Anne Karine que c'est un sale facho. Et c'est le seul moment où le film se permet un peu une invective comme ça, un peu politisée. Alors que par ailleurs, oui, il y a quand même une scène hallucinante, notamment avec Lou Garel qui frappe sur le volant de sa voiture parce que quand même, ils font chier les cheminots avec leur grève. je ne sais plus si les cheminots ou en tout cas, voilà, ou la RATP ou que sais-je. Et que bah, là, on est toujours en fait, dans l'imaginaire des cinéastes du sens de la fête. Quoi. Mais du coup, voilà, pour dire pourquoi je voulais aussi revenir sur le film, c'est en fait, moi, je trouve que c'est vraiment des types assez passionnants dans la manière où, consciemment ou non, ils auscultent ce que serait la société française. Et moi, je suis de plus en plus surpris de remarquer qu'en fin de compte, alors peut-être aussi parce qu'il y a une volonté de jouer sur des sujets un peu plus touchy et qu'il y a toujours cet idéal un peu comme ça de la grande réconciliation que la comédie porte, que la comédie c'est un genre où quand même on ferraille mais à la fin on se réconcilie, mais que d'une certaine manière l'endroit aujourd'hui où le cinéma français va s'attaquer le plus frontalement à des questions de société qui nous divisent, c'est le champ de la comédie. Il y a un autre exemple passionnant là, dans quelques semaines, qui est le film d'Anne Jaoui, qui est pareil, une espèce de comédie monstrueuse sur un sujet qui est celui des VSS. Et je me dis, c'est quand même étonnant, c'est à cet endroit, alors les films basquival, mais c'est à cet endroit que le cinéma français est en tout cas bizarrement les plus, les pieds parfois même enfoncés, enlisés dans des questions qui sont véritablement politiques.
Bah, tu prends l'exemple de cette scène effectivement où il traite donc le père de la petite copine de son fils de facho, et qui est une scène quand même très comme tu l'as dit très curieuse parce que autant l'identité des personnages donc qui est juif arabe, enfin c'est ouais. une famille juive arabe répétée dans le film, ouais. on voit un rabbin etc. À un moment Sandrine donc Camille Cotin raconte un peu son passé etc. Même si on comprend après que c'est un ouais. passé d'ailleurs qui est un peu mensonger, un peu légendaire, mais c'est que le film on va dire, prend toutes les précautions pour que cette identité ne fasse jamais problème dans le scénario. Quoi. C'est-à-dire, il n'y a quasiment aucun moment dans le film où on leur renvoie à eux cette identité.
Bah, il y a un début, bah, c'est pareil, les gens n'en parlent plus, mais c'est étonnant. Quoi. C'est qu'il y a quand même une phrase incroyablement raciste du personnage de Pierre Lotta face à un ouais. rabbin, ouais. mais qu'à la fin, c'est quand même le personnage qui a tenu le propos le plus antisémite du film et d'un antisémitisme décomplexé. C'est quoi la finalité? C'est qu'on va l'habiller pour qu'il nous rejoigne pour la bar mitzvah. Bah, voilà, ouais. une grande réconciliation, encore une fois.
Ouais. Et donc là, typiquement, il y a un truc assez curieux du point de vue du scénario, c'est que on se dit pourquoi est-ce que les deux enfants ne vont pas être ensemble, ce qui est un obstacle utile ouais. à créer tout un tas de péripéties. En fait, c'est pas du tout parce que Vincent, ses parents sont juifs arabes, c'est parce que à cause de son frère, il a fait un mauvais devoir. Etc. Et donc le père d'en face est très mécontent.
Coup, je dois dire.
Un gag assez drôle, ouais. mais qui fait que du coup, finalement, le facho, il n'est pas mérité à ce moment-là dans le film. Quoi. Parce que, et pareil, il y a un moment, il y a l'enfant qui vole un vêtement dans une boutique. On peut projeter que ça aurait pu tout à fait être une situation où cette question-là arrive. Hein, que va objecter le propriétaire de la boutique ? Et en fait, pas du tout, il est extrêmement bienveillant, etc. Et donc il y a une espèce de dynamique un peu paradoxale dans le film qui est parler de ces sujets, parler du racisme et voilà, le film se termine par un concert des SOS racisme, etc. Mais tout en faisant en sorte que ça ne fasse jamais, ça ne pose vraiment jamais question dans le film. Et il y a une image, à mon avis, un peu symbolique qui est le pins que porte Anne Karine, donc l'amie du fils, qui est un pins SOS racisme. Et en fait, le film fait un peu ça, c'est-à-dire il proclame ou il placarde, mais en même temps, il va comme ça essayer d'abstraire et toujours prendre les personnages dans ce qu'ils ont de commun. Et la question du chômage, c'est ça aussi, c'est-à-dire, c'est précisé dans le film et c'est redoublé par la scène que tu as décrite, c'est ça touche tout le monde de la même manière.
Y compris l'immigré italien, je crois, qui est le personnage du père d'un ami. Et il y a une forme de solidarité qui devient une solidarité sociale. Et c'est ça aussi la fin, c'est que quelque part, il faut qu'il soit un petit peu déclassé pour rejoindre le personnage du concierge et qu'on puisse se retrouver à peu près égalité et qu'on négocie de est-ce qu'on garde ou pas la ceinture, les chaussures, etc. Mais voilà, et en gros, trouver un terrain d'entente avec lequel on va pouvoir s'inscrire dans le trafic, justement.
C'est ça. Mais d'ailleurs, cette relation-là, elle est assez symptomatique. On va dire qu'il y a d'un côté ce que le film va édulcorer comme la question un peu du racisme, et de l'autre, celle qu'il regarde pas trop, mais qui, de fait, il adresse un petit peu indirectement, qui serait la question un peu socio-économique, et c'est comme tu disais dans le sens de la fête, c'est-à-dire maintenir une espèce de statu quo, puisque ce père Yves, qui est mis à mal à la fois économiquement et dans sa virilité, à la fin du film, il est restauré, on va dire, dans les deux cas, ou en tout cas, sa virilité est rattrapée par le fait qu'il tienne tête au père d'en face, et... sa relation avec Pierre Letin, il y a quand même un truc assez étonnant, c'est qu'au début, ils s'appellent tous les deux monsieur, et qu'à la fin, lui appelle Pierre Letin Étienne, mais l'autre l'appelle toujours monsieur Dayan, quoi. Donc il y a une espèce de reconstruire une espèce de statu quo bourgeois comme condition du happy end.
Mais il y a un autre détail, je sais plus si j'en parle dans mon texte d'ailleurs, mais je trouve cette scène incroyable. C'est qu'en fait, on voit aussi comme. Bon, durant tout le film, j'ai cru que le couple allait se séparer quand même, parce que c'est un couple qui se tape dessus, je veux dire, il s'engueule beaucoup. Il y a une scène. Bon, je trouve pas très bien d'ailleurs qu'il y a la scène de danse ou qu'il y a une scène comme ça, qu'il y a une scène de suspension, de fuite, voilà, sur...
I'm so excited.
Exactement. Mais il y a un truc où quand même, on voit très bien que le film documente une espèce de machisme ordinaire du personnage, du père. Et en fait, la résolution du couple, je sais pas si c'est bien, le moment où le couple, on sait qu'en fait, ils vont rester ensemble et qu'il y a une forme de résolution et qu'il y a une forme d'euphorie qui s'installe, c'est quand elle accède au rang de cadre. Et donc, d'une certaine manière, il y a une forme de cadrisation de la société qui fait que tout d'un coup, bah là, on ne se sent plus menacé par ce truc du remplacement, qui est un truc, je ne veux pas psychologiser le cinéma, qui n'est pas nouveau en fait chez eux. C'est pas exactement sur le même angle, mais je me souviens que ça a été aussi un truc qui travaillait un peu sous un angle à la fois comique, mais un peu mélancolique, le sens de la fête. Je sais pas si tu te souviens, il y a le personnage je suis de plus en plus mauvais sur le nom des acteurs, comment il s'appelle l'ancien Robin des Bois là,
Jean-Paul Rouve,
merci, voilà, évidemment Jean-Paul Rouve, qui jouait un photographe de mariage. La profession, quand même, on le sait, c'est malheureux, enfin c'est malheureux, je sais pas, c'est pas le pire drame de l'histoire, mais on en revient d'ailleurs à ce drama. Photographe de mariage, qui est une profession qui est en train de disparaître parce que tout le monde a un téléphone et donc tout le monde fait de la photo, et on voyait bien que c'était un personnage en fait qui faisait un travail qui n'était plus utile et qui n'allait quelque part perdre son travail à terme. Et donc cette espèce d'angoisse de il y a quelque chose qui m'échappe, il y a une place qui m'échappe, et comment je peux la voir? Alors on pourrait dire elle est traitée sous un angle beaucoup plus politique, plus conséquent, sur le personnage de Samba et le personnage de Marcy qui se demande comment je peux rester en France, etc. Mais ouais, il y a quand même cette idée là c'est comment je m'inscris dans comment je m'inscris dans la France, qui était aussi quelque part un peu le sujet du précédent film, qui était des personnages qui étaient un peu ruinés et qui trouvaient rien de mieux pour s'en sortir que de rejoindre un parti, enfin un groupuscule écologiste. C'était quand même un drôle de et le film voulait être à la fois finissait sur une conclusion d'ailleurs un peu étonnante et un peu bizarre, c'est-à-dire qu'à la fois il voulait être à l'heure sur les questions écologiques et en même temps il voulait faire son miel comme ça de l'espèce de ridicule que peut avoir une organisation militante vue de loin avec ses us et coutumes, sa volonté de réinventer le monde, etc. Et ça c'est assez étonnant parce que ce faire sans utopiste en fait chez eux, il a toujours été ramené aussi avec une espèce de contrepoint ironique, quoi. Et que là à l'arrivée, le film me semble justement travailler quelque chose de la suspension, de la fuite en avant. Tu dis qu'il se termine sur le concert des ostracismes. Plus exactement, il se termine quand même sur on va vers la bar mitzvah. Voilà.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est vrai que cet imaginaire même d'SOS racisme, c'est un espèce d'imaginaire égalitaire qui est aussi une promotion de l'égalité qui a tendance à. Qui est la limite du publicitaire, quoi. On est un peu aussi sur l'imaginaire des publicités Gap de l'époque ou de la France Black Blamber, cet imaginaire-là. C'est-à-dire on est tous égaux parce qu'on joue tous au foot et parce qu'on écoute tous au téléphone. Mais à l'arrivée, c'est une manière aussi de gommer, d'une certaine manière. Absolument. Ou alors de laisser en suspens les questions de conflit. Moi, en fait, c'est ça que je... C'est étonnant parce que je dois dire... quand je dis que ça me passionne comme... Et je suis très sérieux, comme certains films de Philippe de Chauvreau m'intéressent, quoi. C'est-à-dire même Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou surtout ce film hallucinant, je me souviens plus, avec Christian Clavier qui accueille des...
C'est pas Cocorico ou un truc comme ça?
Non, ça c'est Cocorico, c'est avec Didier Bourdon, ça j'ai pas vu, mais il faut que je rattrape, où il y a un jeu justement, on se croit français qu'on ne l'est plus. Non, c'est un film dont le titre de travail était S'il vous plaît, avec 15 et que
avec
du
Harry
coup...
Habitant,
voilà, et en gros, où Clavier joue à bras ouverts. À bras ouverts, que j'avais couvert d'ailleurs. À bras ouverts, film quand même qui a un postulat absolument passionnant, quoi. C'est-à-dire que Clavier joue un avatar de BHL qui dit qu'il est prêt à accueillir des migrants roms s'ils arrivent. Et là, il y a des faux roms qui arrivent et qui, donc, il est obligé, bon gré mal gré, d'accueillir parce que c'est la gauche humaniste, etc. Bon, bah voilà, c'est un film un peu monstrueux, mais assez passionnant, tu vois, sur cette idée justement de comment on va travailler la question à la fois comique, mais quand je te dis que c'était délirant, c'est-à-dire que l'entrée notamment du forum, c'est un doigt sur une sonnette, sur une, comme une espèce d'invitation qui renvoie à l'imaginaire du vampire, c'est-à-dire est-ce qu'on laisse ou pas rentrer le vampire, on l'accueille parce que sinon il peut pas rentrer chez soi, sachant que c'est des Roms, tu vois. Enfin voilà, le film travaillait quand même quelque chose d'absolument monstrueux, quoi. Et en même temps, voilà, c'est, du coup ça pose un peu des questions, parce qu'en plus dans le film il y avait un avatar de, je crois, de député d'extrême droite ou RN, etc., qui débattait avec BHL, donc on était quand même dans un cas de film français qui mettait directement en scène des mutations de la société, des questions qui sont quand même pas forcément, tu vois, inintéressantes, hein, même sur l'hypocrisie potentiellement d'une classe médiatique ou d'une caste médiatique qui se prétend de gauche mais qui en fin de compte c'est un espèce de vernis comme ce humaniste qui s'effrite assez rapidement. Et d'une certaine manière, moi, ce qui me frustre avec Toledo et Nakash, c'est qu'il commence toujours là-dessus, et donc il commence toujours sur un terrain à la fois surminé et en même temps, encore une fois, assez passionnant, et qu'au bout d'un moment, va y avoir une espèce de grande réconciliation ou une espèce comme ça de dilapidation des enjeux un petit peu abrasifs, quoi. C'est-à-dire, ils vont toujours sur quelque chose qui frotte un peu, et ils finissent toujours par un truc un peu coulant, quoi. Mais là où ça m'intéresse quand même sur ce film-là, c'est en particulier, c'est que j'ai l'impression que le film est inconsciemment pensée vendue comme un espèce de shot de bonheur temporaire, en attendant qu'en gros Bardella arrive au pouvoir dans un an.
Et oui, c'est ça, il y a l'idée un peu dans le film de constituer les années 80 comme une espèce de temps à la fois béni et un petit peu abstrait, quoi, c'est-à-dire à la fois très situé mais uniquement par des marqueurs culturels, quoi, des marqueurs de pop culture. Et d'ailleurs, la scène de danse qu'on a décrite fait intervenir, donc la réconciliation du couple passe par la musique, et en miroir, le sauvetage économique de la famille passe par la valise RTL, qui est aussi comme ça une espèce d'avatar extrêmement situé comme ça de l'imaginaire collectif des années 80. Et donc il y a cette idée, et je me suis formulé...
Et c'est RTL qui fait société, quoi, d'une certaine manière.
C'est ça. Ouais. Et je me suis formulé devant le film, c'est qu'on passe beaucoup de temps en intérieur dans des chambres recouvertes de posters, et c'est un peu à l'image du film lui-même, c'est-à-dire on voit pas grand-chose de la société de l'extérieur dans son ensemble, mais par contre on voit un espèce de monde qui est tapissé comme ça de marqueurs pop culturels, parce que c'est aussi ça qui crée du commun précisément. Et je trouve que sur la question, voilà, de la potentielle résignation du film, il y a quand même des choses assez, assez belles. C'est que le film se termine littéralement au moment où Vincent, donc le fils, va rentrer dans la télé, rentrer dans cette espèce de monde imaginaire, SOS racisme, etc., littéralement basculer du côté de l'illusion. Et par ailleurs, le film se termine avant sa bar mitzvah, donc avant le moment de l'âge adulte. Donc il y a une espèce comme ça de choix de...
Et il se termine par ailleurs sur des images qui sont un peu du super but d'enfance, c'est-à-dire qu'en fait on est passé d'une image collective de la télévision à une image quand même qui est presque une image intime, que serait le film de famille, le movie, absolument, etc., ouais, qui est aussi un autre glissement, tu vois, il y a quand même pas mal...
Mais qui rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire toujours filmer la société comme une grande famille. Mais donc le film, du coup, a cette idée de dire... Et c'est là où le titre est assez cocasse, c'est que, bah oui, c'est juste une illusion, quoi. C'est-à-dire, on va choisir précisément, c'est pas Un autre monde, puisque donc c'est deux chansons de Jean-Louis Aubert, enfin, une avec téléphone, et le film s'appelle pas Un autre monde, presque parce qu'il sait que ça n'a pas marché, mais il dit juste une illusion, on va se réfugier là-dedans, quoi, le temps.
Dans l'idée que le monde aurait pu être autre chose.
Exactement, ouais. Eh bien, merci Josué pour ces deux débats sur les films. On se retrouve la prochaine fois à Cannes, donc à la fois à travers les textes, mais aussi des vidéos quotidiennes et un podcast. Je remercie Lucas Monguet qui va monter cet épisode, et on se retrouvera peut-être pour un épisode supplémentaire du podcast en juin.